Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en décembre 2024 et vous écoutez le Pour et le Contre, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Élodie et je serai l'arbitre du duel de cette émission qui traitera des ruines perdues de Narak. Pour ce débat qui nous permettra de savoir si ce jeu est une pépite ou une arnaque, j'accueille nos deux explorateurs, joueurs, jouteurs, Cyrus et Drew. Salut Cyrus.
Salut Élodie.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va bien. Je vois que ça y est, la blague sur Narak et arnaque est déjà placée, bravo. C'était bien fait.
C'est obligatoire celle-là. Salut Drew.
Salut. Alors, moi pour la joute, j'ai pas pris mon cheval. Ça a posé problème ou...
Ça peut être une joute aussi d'aviron ou de, tu vois, naval.
Ah oui.
Puisque en plus dans le jeu, on peut prendre des petits bateaux.
Je viendrai à d'autres gardiens, ça ira mieux, tu vois.
Parfait. Alors, avant de commencer cette émission, nous allons remercier nos donateurs et donatrices.
Alors, on va remercier la famille Blue, on remercie également B1, Robinocrite, Altaripa, Arnaud VM, Frédéric Moulis, Kinarbre, mais également...
On remercie également Karl Schnaps, Hurlien, Mathieu, Chacado, Ophélie, Hammer, Olive Link et Beru.
Et nous remercions également la Caverne du Gobelin qui nous aide à réaliser ce podcast. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Sémécourt. Mais c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur lagavernedugobelin.com.
Et t'as bien réussi à en compter 6, toi. Parce que je crois qu'il y a eu une émission récemment, il y a quelqu'un que je voudrais pas nommer là, parce que je voudrais pas mettre les gens mal à l'aise, mais qui a pas réussi à tenir le compte. Hein.
Bah, mais si, j'ai vérifié sur les 4 doigts de ma main, j'avais tout. Alors,
J'avoue qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là aussi et qui a pas capté qu'on en avait oublié. Donc,
non, mais faut pas le dire.
C'était peut-être le montage qui avait tranché un peu des trucs. Mais,
okay, non, faut pas le dire, c'était juste pour avoir des commentaires, voir si les gens suivaient.
Ah bah,
ça a marché.
Ça a marché.
Alors, on va maintenant passer aux commentaires et au retour sur l'émission d'octobre 2024 qui était consacrée à Kingdom Builder avec Bartouf dans le camp du pour et le pionfesseur dans le camp du contre. Et tout ça animé par Flavien. Donc, merci beaucoup pour vos 7 commentaires. Tout d'abord, la plupart des personnes qui ont commenté ont salué l'arrivée de Bartouf sur ce format et ont été plutôt d'accord avec ses arguments. Il faut dire que la plupart des commentateurs étaient plutôt du côté du pour. Certains comme Arthur, Cargo et Loïc Boignet ont déploré la prise de position dans le clan du contre trop marqué de Flavien. Bon, alors moi je vais essayer d'être un peu plus impartial ce soir, mais je vous promets rien.
Ouais, d'ailleurs, je t'ai trouvé gentil hein, quand t'as dit que Flavien était animateur à ce moment-là. Hein.
Bah, c'était sans... enfin là, j'ai repris des mots
c'était pour la blague.
J'ai repris les mots de certains commentaires où il parlait justement que Flavien en tant qu'animateur aurait dû rester un peu plus impartial. Et ensuite, on a d'autres commentaires qui viennent nous dire que le pionfesseur est passé à côté du jeu, donc la formule elle revient 2 fois. Donc c'est le cas de Loïc Boignet encore, mais aussi de Chacado et Serge et du confesseur qui l'exprime avec beaucoup plus de verve. Donc je vous laisse aller lire le commentaire. Et enfin, on a des retours sur des points de règles. Alors je vous avoue que moi, Kingdom Builder, je n'y ai pas joué et je n'ai pas écouté l'émission. C'est assez rare que j'écoute les émissions autour de jeux dont je n'ai absolument aucune image mentale, comme c'était le cas pour celui-ci. Et donc je vous laisse aller réécouter ces points de règles et la joue au débat. Donc voilà, sur le site de Proxy Jeux. Voilà, est-ce que vous aviez des remarques à faire sur ces commentaires?
Non, mais du coup, effectivement, si t'as pas écouté l'émission, je comprends pourquoi tu n'as pas goûté ma blague sur le fait que Flavien était animateur ou pas, quoi.
Ah bah non, bah du coup, tu peux l'expliquer.
Non, mais c'est juste qu'effectivement, il prenait beaucoup parti, quoi.
Tu veux dire que l'arbitre avait été payé?
Ouais, je pense que l'arbitre avait été payé, là, clairement.
Bon bah je vais essayer de...
Attends, parce que moi j'ai pas fait de chaque à l'arbitre là, du coup...
Trop tard, c'est
trop tard,
c'est trop tard, tu peux plus.
Ah non, je n'ai pas été payé.
Ah bon bah ça va alors.
Alors voilà, j'ai une opinion sur le jeu, peut-être que vous saurez laquelle elle est, mais je vais essayer de ne pas être trop biaisé sur cet arbitrage. Mais encore une fois, je promets rien.
Voilà. Tu nous donneras ton avis à chaud à la fin.
Je vous dirai, ouais, je vous donnerai mon avis à la fin. Donc, cette émission va se passer comme ça. Nous allons avoir d'abord un petit avis à chaud pour savoir, du coup, qui est dans quel camp, même si je vous l'ai déjà dit. Ensuite, je vais rappeler quelques règles. Puis, nous allons présenter le jeu et nous reviendrons sur les mécaniques. Puis ensuite sur le système de scoring et enfin sur les thématiques et le matériel. Voilà comment va se passer le débat de cette émission. Donc je vous invite messieurs à faire votre rapide avis à chaud sur les ruines perdues de Narak. Cyrus, tu veux bien commencer ?
Oui, bien sûr, merci Elodie. En ce qui me concerne, je serai dans le camp du contre ce soir et peut-être qu'on me rétorquera que oui, c'est vrai, par le passé, alors je ne sais plus quelle date c'était, je crois que c'était en 2021, hein, j'ai fait le jeu du mois sur les ruines perdues de Narak, qui était pour moi un bel objet d'analyse. À noter que c'était à une époque où les jeux du mois n'étaient pas spécialement orientés vers des coups de cœur. Ce qui est devenu le cas dans les saisons suivantes quand même. Et d'ailleurs j'ai réécouté du coup l'émission pour savoir ce que j'avais dit à l'époque. Je suis plutôt pas mal en phase avec ce que j'ai dit à l'époque. Hein. Je l'avais présenté comme un jeu effectivement qui était un beau sujet d'analyse mais qui au final m'avait pas vraiment séduit. C'est un jeu que je trouve assez froid au final. Je trouve que le thème est pas très bien rendu dans l'adéquation thème mécanique. C'est-à-dire, autant dans le jeu, ils ont essayé de faire des trucs qui sont cohérents avec le thème, mais mécaniquement, en fait, on se sent pas trop, on se sent pas dans l'âme d'un aventurier, on se sent pas trop dans la peau d'Indiana Jones, on est vraiment pas dedans pour moi. Et puis, même si je reconnais que le jeu a des qualités en termes de game design très léchées, bah, en fait, moi, ça me laisse vraiment sur place, quoi, ça me laisse de marbre, c'est vraiment, ça évoque pas grand chose chez moi et je lui reproche aussi quelque chose en particulier, c'est que pour moi c'est une torture mentale ce jeu. Il faut vraiment réussir à planifier sa manche complète, se projeter sur beaucoup beaucoup d'actions, tout est beaucoup trop morcelé en fait à mon sens et c'est je crois que c'est là le plus gros de ses défauts de mon point de vue.
Ok, Drew, est-ce que tu veux nous donner un petit avis? Petit apéritif.
Oui. Un apéritif léger. Donc, vous aurez compris que moi, c'est le camp du pour, évidemment. Je dirais même que c'est un de mes jeux préférés. J'ai horreur de faire des tops, mais je pense qu'il est dans mes 10 jeux préférés. Moi, je l'aime bien, effectivement, pour sa thématique. Et je trouve qu'on la ressent bien dans les règles. Et je trouve que cette thématique accompagnait bien les règles et que tout est très cohérent. Or, c'est clair, on ne sent pas au volant d'une Jeep en train de parcourir la brousse, mais ça a ce petit effet de découverte, d'un aspect grisant quand on va aller fouiller certains lieux nouveaux. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va devoir amadouer comme gardien? Donc, moi, au contraire, alors, je suis fan des jeux de gestion, donc ça influe certainement par rapport peut-être à l'avis de Cyrus, parce que ben effectivement on optimise, on va comme ça aller dépenser jusqu'à sa dernière ressource, faire durer le tour le plus longtemps possible, mais c'est le jeu qui veut ça et c'est ça qui est grisant, c'est de pouvoir jouer de plus en plus longtemps et plus que les voisins du coup peut-être.
Ok, eh bien merci beaucoup. Du coup on a un petit peu parlé des règles de ce duel, donc je vous demanderai messieurs de ne pas vous couper la parole. On va rester entre gens civilisés et aussi d'éviter d'utiliser deux fois le même argument, histoire qu'on ne soit pas trop dans une émission trop redondante. Et si vous avez le malheur de faire ça, vous aurez droit au bidule sonore.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, j'ai hésité avec aussi la sonnette du match de boxe, mais j'ai trouvé que le sifflet bizarre était rigolo. Et c'est le bruit de certains gardiens du jeu. Voilà, je les ai rencontrés pour de vrai et du coup ils font ce bruit-là. Alors, et puis aussi, on ne parlera pas, on va rester que sur le jeu de base et on ne parlera pas des extensions, si cela vous va.
Ouais, ça me va très bien. J'ai pas joué aux extensions, donc là, ça me va bien.
Voilà, donc on restera.
Après, je peux en parler quand même, hein, mais.
Objection, votre honneur, j'ai fait une partie avec le sieur Cyrus il y a quelques mois et on a joué avec les extensions. Il ment, il commence à mentir.
Mais non, on n'a pas joué avec les extensions.
Si, on a joué avec les extensions.
Comment ça, on a joué avec quoi des extensions?
On a joué avec les personnages, non?
Non.
Ah non? Bon, j'ai rien dit. On coupera.
Ah non, je couperai pas.
Ah bon, ça, je croyais qu'on a joué avec les extensions. Non, bah,
c'est avec moi que t'as joué avec les personnages.
Ok, c'est parti.
Donc voici pour la présentation du jeu, donc Les Ruines Perdues de Narak, qui est sorti le 2 avril 2021, qui a été créé par Min et Elwen, illustré par Yiri Kous, Andriev Rdina, Jakub Politzer, František Sedláček et Milan Vavron. Pas évident de prononcer des noms tchèques.
Bravo.
J'avoue que j'ai eu de la peine pour toi quand j'ai réécouté les jeux du mois. Je me suis dit, ah la pauvre, elle va faire les illustrateurs.
Mais tu te souviens, à SN, on laisse ces jeux-là avec des noms imprononçables à Cyrus. C'est Cyrus qui les explique, il fallait lui laisser faire.
Ouais, bah là du coup, tu vois, c'est tombé sur Elodie.
Bah cette année, c'était pas mal Cargo aussi qui a eu droit aux noms imprononçables.
Ouais, je crois que Cargo, c'est Cargo surtout cette année.
Voilà, c'était l'apanage de Cargo. Voilà, bah, désolé si j'ai écorché les noms. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et joueuses à partir de 12 ans et pour une durée de partie de bien 30 minutes par personne. Donc je vous propose de lire le pitch retrouvé sur le site de Yellow et qu'on parte de ses arguments marketing pour notre débat, histoire de voir si vous êtes d'accord ou non avec tout ça. Les Ruines Perdues de Narak est un jeu Yellow Expert dans lequel les joueurs et joueuses doivent tenter de marquer davantage de points que leur adversaire en explorant les vestiges d'une civilisation oubliée. La force du jeu, c'est son incroyable richesse, puisqu'il concentre plusieurs mécaniques de jeu particulièrement addictives et les réunit dans un jeu intense et exigeant. Ça fait beaucoup de fois « jeu » quand même dans ce paragraphe. Deck building, exploration, placement d'ouvriers et gestion de ressources sont ici combinés de manière logique, permettant aux joueurs et joueuses une immersion complète et intuitive. Les mécaniques de jeu sont au service du thème et celui-ci est particulièrement présent tout au long de la partie. À son tour de jeu, le joueur ou la joueuse peut mener de multiples actions conditionnées par sa main de cartes. Explorer l'île, fouiller des zones explorées, acheter des objets et des artefacts, combattre des ennemis, faire appel à des assistants, mais aussi poursuivre la quête du but ultime, la localisation du temple perdu. Le jeu prend place sur un plateau de jeu de grande taille recto verso pour une version avancée encore plus challengeante et invite les joueurs et joueuses à mener leurs actions à hauteur de leurs ressources en leur laissant une grande liberté de gestion. Contrairement à la plupart des jeux de deck building, les cartes acquises sont directement placées sous la pioche pour en maîtriser le flux et les artefacts sont activables dès l'achat pour des effets aussi immédiats que spectaculaires. Toutes les actions sont susceptibles de rapporter des points de victoire, mais la recherche du temple perdu sera particulièrement riche en prestige pour les plus audacieux et audacieuses. Fort de sa tension croissante et de la densité des actions disponibles, chaque joueur et joueuse peut suivre sa propre stratégie pour cumuler des points de prestige. Il sera bien entendu possible de bannir ses cartes les plus faibles au fur et à mesure de la progression de la partie, pour créer d'impressionnantes combinaisons susceptibles de renverser le cours du jeu dans les derniers tours. Incroyablement riche en possibilités et impressionnant de fluidité, les Ruines Perdues de Narak constituent une nouvelle référence du jeu expert. Matériel généreux, thème particulièrement exploité, haute densité de jeu, possibilités stratégiques multiples, variantes solo et large courbe d'apprentissage. Donc voilà la promesse que nous en fait Yellow et on va voir avec vous si elle est tenue. Alors déjà, je vais bientôt me taire, ça va bientôt être à vous de parler. Mais avant de commencer, je voulais savoir combien de parties vous aviez fait chacun de votre côté, pour savoir d'où vous partez.
De mon côté, j'en ai fait 7.
Moi, j'en suis à 20 parties, sachant que j'ai pas dû noter les dernières, donc je dois être à 23, 24 parties.
Ok, alors juste, moi j'en ai fait 7 aussi, j'ai vérifié. Donc voilà, on voit quand même que vous avez tous les deux joué, bon... Alors, Drew, beaucoup, et Cyrus, quand même, quelques fois, pour nous permettre d'avoir ton avis. Je trouve que c'est quand même intéressant de savoir à quel point on a tenté le jeu de différentes façons de jouer, etc., pour pouvoir en parler correctement. Je trouve que c'est important de savoir d'où vous partez.
Alors, sachant que moi, ce qui va biaiser un peu mon compte de partie, juste pour faire la parenthèse, parce qu'on n'en parlait pas, c'est la dernière extension qui est un mode campagne qui engage à faire plein de parties. Donc, c'est pour ça aussi que le compte est vite monté.
Ok. Alors, ben, ça y est, on attaque le débat. Du coup, je vous propose de parler d'abord mécanique, avec cette histoire de mécanique imbriquée, notamment pose d'ouvriers mêlée à du deck building et de la gestion de ressources. Une critique qui revient assez souvent sur BGG, c'est qu'il y a un peu de tout, mais pas assez de chaque. Pas assez de deck building, pas assez d'ouvriers à poser. Est-ce que pour vous, c'est bien suffisant pour se creuser la tête ou est-ce qu'il faudrait en rajouter un petit peu ? Drew, est-ce que tu veux bien commencer ?
Ouais, alors pour tout vous dire, moi je suis pas trop fan de deck building à la base. Piocher de la carte, faire un tas, le deck, la défausse, on remélange tout ça, ça, je trouve ça un peu répétitif. Mais du coup, ces nouveaux jeux qui sont sortis là ces dernières années, qui vont justement mêler le deck building à quelque chose, et dans le cas de Narak, mêler le deck building à la pose d'ouvrier, on va se servir de ces cartes pour aller faire quelque chose, et ben moi ça a bien matché, parce que justement, les cartes ont une utilité autre que d'aller acheter d'autres cartes. On peut effectivement s'en servir pour acheter d'autres cartes, mais c'est pas uniquement ce qu'on va faire dans le jeu. On va pas comme ça brasser des cartes. Et donc, y avait aussi cette question du nombre d'ouvriers, de deux ouvriers. Alors c'est vrai que quand on commence la partie, les deux ouvriers, on a vite fait les utiliser. La première manche va être peut-être un peu courte, mais on y reviendra. Mais par contre, moi je trouve que c'est suffisant parce qu'au fur et à mesure du jeu, ça va se développer et deux ouvriers, ben on va voir qu'on peut faire quand même pas mal de choses rien qu'avec ces deux ouvriers. Donc non, je trouve que c'est peut-être des commentaires de mauvaise foi, on va dire, mais non, je trouve que là-dessus, ils ont bien travaillé pour trouver un équilibre de jeu en termes de nombre de coups d'ouvriers qui va bien.
Ok, Cyrus.
Bah, de mon côté, moi, contrairement à Drew, je suis plutôt amateur de jeux de deck building. J'aime bien aussi les jeux de pose d'ouvriers, même si j'en ai soupé et voilà quoi. Pareil pour les deck building hein, d'ailleurs hein. Les deck building je suis sélectif, mais en tout cas il y a des jeux deck building que j'aime beaucoup, il y a des jeux de pose d'ouvriers que j'aime beaucoup. La proposition des ruines perdues de Narak, c'est de mélanger les deux, mais au final c'est ni un jeu de deck building ni un jeu de pose d'ouvriers hein. faut bien se le dire, on n'est pas du tout dans le canon ni de l'un ni de l'autre. On est dans l'exploitation d'une mécanique qui a fait ses preuves dans des jeux dans lesquels il y a que ça, et là on est venu saupoudrer différentes mécaniques dans un jeu, et ça fait ni un jeu de deck building ni un jeu de pose d'ouvrier. Donc c'est sûr que si c'est ça qu'on vient chercher, c'est pas ça qu'on va trouver. Ouais, c'est pas là-dessus que je vais me battre. Voilà, c'est une proposition mélanger de la pose d'ouvrier et du deck building. Est-ce qu'il faut plus d'ouvriers? Non, sûrement pas, parce que ça sera encore plus long. Est-ce qu'il faut plus de deck building? Bah, sûrement pas non plus, parce que c'est pareil, si t'as plus de cartes, en fait, tu fais plus d'actions, donc c'est potentiellement encore plus long. Donc, non, je pense que le dosage, il est, il y a peut-être même déjà trop, tu vois. J'ai envie de dire, j'irais peut-être plutôt à l'inverse au final, quoi. Il y a peut-être déjà trop, en fait.
Et du coup, qu'est-ce qui définit un deck building pour toi, pour que tu dises que Narak, c'est pas un deck building?
Non, alors c'est pas un jeu de deck building au sens de ce que ça te fait ressentir quand t'entends parler de deck building. Quand t'entends parler de deck building, t'entends parler de combos, de recherche de synergie, de comment je vais faire pour rendre mon deck performant. Tu vois, donc est-ce qu'il faut que je le vide? Est-ce que je l'épure? Est-ce que juste je crée de la redondance dedans? Tu vois, je pense à des Dominions, à des Star Realms. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même feeling. Là, quand t'achètes une carte, c'est pas pour la comboter avec autre chose. C'est juste pour son pouvoir, tu vois.
Mm-hmm. Bah,
tu cherches pas à créer une synergie particulière. Tu l'achètes pour son pouvoir et ses points, quoi.
D'autant plus que certaines cartes, c'est presque les artefacts, ça va presque être du one shot, parce que derrière, on va peut-être pas pouvoir les réutiliser, repayer leurs coûts, et qu'il y a un effet souvent des artefacts d'opportunisme et de bons coûts au moment où on l'achète, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ah oui, moi, j'arrive quand même à travailler sur mon deck dans Narak, hein, à l'épurer très fortement, à avoir une. Alors, c'est clair que c'est pas aussi puissant.
Ah, t'es pur, tu vires les peurs.
Non. Je vais jusqu'à retirer des cartes actions, les cartes de base, j'arrive à les dégager aussi. Alors, pas dans toutes les parties, hein, ça dépend effectivement des configurations et de ce qu'on peut avoir comme possibilité sur le plateau, mais j'arrive à aller retirer des cartes de faible valeur, et par contre. La synergie de cartes, il y en a. J'arrive à faire un petit peu, mais ça reste effectivement léger dans ce cas-là. Mais oui, je comprends pour ça la limite. Ouais.
Ok. Moi, je voulais revenir un petit peu aussi sur les règles, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans un jeu. Est-ce qu'elles vous paraissent bien écrites, cohérentes, fluides?
Alors, je ne les ai pas relues, mais effectivement, on a refait des parties là récemment là avec Drew, une en physique et une en démat. Honnêtement, je trouve que ça se séquence pas trop mal quand même. C'est là que au niveau du game design, ils ont bien géré leur affaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de mécaniques différentes ce que j'appelle des ludem, c'est-à-dire qu'en fait on l'a dit, hein, il y a la pose d'ouvrier, il y a du deck building, il y a de la gestion de ressources, même parfois la transformation de ressources. Donc ça fait beaucoup de choses en fait qui s'accumulent. C'est pour ça qu'on place le jeu dans une catégorie assez complexe de jeux, hein, ce qu'ils appellent, et terme que je déteste, les jeux experts, comme si on était des experts en jeu, parce que juste on connaît effectivement ces différents ces mécanismes, ces ludem. Je vais pas faire un débat là-dessus. Oui, c'est un jeu complexe, mais pour les gens qui ont l'habitude, on a rencontré ces différentes mécaniques, donc ça va et ça s'enchaîne plutôt pas trop mal. Il y a peut-être quelques trucs qui sont contre-intuitifs. Le coup des cartes que tu peux jouer de façon immédiate et qui te coûtent pas ton tour versus celles qui te coûtent ton tour, quoi. Mais bon, quand tu l'as expliqué une fois, tu l'as rappelé une deuxième fois, c'est bon, quoi. Il y a un petit éclair ou à côté. Bon, j'ai pas trop de critiques sur cet aspect-là du jeu, quoi.
Alors moi, je n'ai pas souvenir d'avoir lu les règles. Je pense qu'on me l'a expliqué à la base. Mais en tout cas, ce que je trouve clair, c'est que les règles sont très facilement assimilables et on les retient assez facilement d'une partie sur l'autre. Parce que moi, je suis une vraie passoire au niveau de la mémoire et c'est souvent que je fais une partie d'un jeu et je vais pas y jouer pendant 2, 3 mois, 4 mois, je me remets dedans, je suis bon pour relire les règles. Mais avec Narak, les parties d'après la première partie sont devenues assez fluides très rapidement. Il n'y avait pas à retourner aux règles. Je trouve que ils ont réussi à épurer le jeu, à ne pas mettre justement de petites règles cachées dans un coin qui vont nous gêner. Et au-delà de ça, je trouve que la thématique aide vraiment à se raccrocher aux règles. Mais bon, je crois qu'on aborde la thématique dans une seconde partie, donc je développerai plus tard ce thème-là.
Mais je suis pas trop d'accord.
Mais on verra tout à l'heure.
Gardez vos billes. Sinon, attention, hein, ça siffle. Hein. Gardez vos billes pour la thématique.
C'est pour ça, j'en parle pas maintenant. On avait
compris qu'on va se faire whiz-whiz, alors.
Voilà. Très bien, très bien. Hey, comme
mais,
quoi.
J'en parle, mais je n'en parle
exactement.
Pas.
Voilà.
Je le dis quand même. Hein,
je crains le whiz, moi.
Et du coup, autre critique qui est revenue assez souvent sur BGG, c'est la partie de hasard, le fait que il y a du hasard quand arrivent les différents lieux qu'on va explorer. Il y a du hasard sur les monstres qui vont popper. Il y a du hasard sur la rivière de cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? On aime ou pas le hasard?
Je pense qu'il y a quand même pas mal de mauvaise foi sur ce commentaire-là. Parce que dans les jeux de hasard, c'est pas Narak qui va avoir le plus de hasard quand même. Mais parce que pour moi, effectivement, le hasard, ils l'ont cité dans la pioche de gardien, dans la rivière de cartes. Mais en gros, c'est assez facile à maîtriser. On connaît à peu près son deck déjà, mais on n'a pas énormément de cartes. On sait ce qu'on a dedans et ça tourne assez vite. Et en gros, ok, il y a la surprise des gardiens, mais une fois qu'on a fait quelques parties, on sait à peu près ce que vont demander les gardiens. C'est-à-dire, ils vont vouloir de la pointe de flèche, de la tablette, de la boussole. Quand on y va, on sait à peu près à quoi s'attendre et du coup, on prépare, on s'équipe. On prend des ressources avant d'y aller. Ou en tout cas, on sait qu'on pourra aller en rechercher derrière. Donc bon, ok, oui, du hasard, mais vraiment, pas grand-chose. Et pour revenir sur la critique que tu as citée, là, moi, au contraire, je trouve que c'est vachement grisant. Quand on découvre le site, on y va un peu, on est en train d'explorer, on y va, on sait pas ce qu'on va trouver, on sait pas ce qu'on va gagner. C'est ce petit côté, tiens, qu'est-ce que je vais avoir sur la tuile du site? Puis après, qu'est-ce que le gardien va me demander? Est-ce que ce qu'il va me demander, ça va matcher avec ce que j'ai gagné sur la tuile du site? Donc au contraire, moi je trouve que c'est un petit peu de piment, quoi, dans le jeu, c'est sympa. C'est pas un hasard que tu subis de manière mauvaise, on va dire.
Je comprends que ça puisse frustrer des gens, en fait. On est dans un jeu de gestion dans lequel tu fais beaucoup de calculs. Du coup, t'arrives face au gardien, finalement, t'as toutes les ressources sauf celles qu'il te demande. Bon, ça te... voilà quoi, ça touche un peu les boules quoi. Je comprends l'argument qui est opposé au jeu hein. Dans la partie hasard il y a aussi le deck building hein. Forcément le deck building c'est une mécanique avec du hasard hein. C'est le principe hein. C'est que tu sais pas quelle carte tu vas piocher. Typiquement, tu vois, la dernière partie qu'on a faite où je me suis tapé quasiment une main sur 5 cartes, je crois j'avais 3 peurs. Bon, tu fais bon, ok, ça va être un tour pas ouf. Ouais.
Ah, mais tu le sais que tu as 3 peurs et tu risques d'avoir une main comme ça. Et au contraire, le jeu, quand tu achètes des objets, tu les mets en bas de ta pioche. Donc tu sais quand ils vont arriver. Et donc je trouve que côté deck, c'est quand même assez maîtrisé, mais.
Ouais, mais bon, quand tu le remélanges, ah oui, voilà, oui. Quoi. Voilà, en l'occurrence, c'était ce qui s'était passé. Mais, bon, voilà, c'est un argument que je comprends, c'est intéressant, du coup, de l'exposer, hein, parce que moi, je l'aurais pas forcément exposé, typiquement. Du coup, c'est bien que t'aies fait le tour, tu vois, Elodie, et nous challenger sur ces points-là. Parce que je pense que, typiquement, il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui vont nous dire, bah ouais, effectivement, moi, dans Narak, c'est bon, quoi, le coup du gardien que je connais pas, merci, au revoir, quoi. Bon, la rivière de cartes, bah honnêtement, en fait, on sera tous exposés au même hasard, donc bon, voilà quoi. C'est, il y en a pas un qui va plus souffrir qu'un autre de la rivière. On peut opposer peut-être l'opportunisme de quand quelqu'un a pris une carte et derrière, bah il y en a une vachement mieux qui tombe et c'est ton tour, ça tombe bien, voilà. Mais en fait, je crois qu'il y a pas assez de hasard en vrai dans Dark. Moi, je trouve que c'est trop calculatoire, en fait. Donc, à mon sens, il y en a pas assez. Donc, tu vois, j'irai à l'inverse, moi.
On va rajouter des dés si tu veux.
Ah, hey. Non, mais je sais pas ce qu'il faudra. Non, mais justement, après, peut-être qu'il faut pas en rajouter. On est déjà à un certain niveau, quand même, de l'UDM, de mécanique dans le jeu.
Ah, il y a pas de stop ou encore.
Il n'y a pas de stop encore, non. C'est vrai.
Tu vois, tu peux affronter les gardiens au dé avec du stop ou encore.
Non, mais on peut rajouter plein des choses, bien sûr.
Mais c'est quand même bizarre, un jeu qui a bien marché comme ça, ils n'ont pas fait encore une version dé, une version carte, une version le roll and write. C'est bizarre, ça va arriver, je pense.
C'est vrai, t'as raison.
Une version jeu de pli cette année.
Ah oui.
Narak, le jeu de pli. Le jeu de cette famille avec les gardiens. Donc, ouais, c'est aussi un jeu qui demande à se projeter à 4 ou 5 tours. En gros, le temps de la manche, quoi, avec en début de manche, on pioche 5 cartes et c'est les 5 cartes qui vont nous permettre de jouer. L'idée, c'est d'essayer de les faire durer au maximum pour pouvoir faire le maximum d'actions. Mmh. Et donc, on va se projeter sur cette main de 5 cartes. Et derrière, on va plus ou moins repartir à zéro pour la manche suivante. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah justement, en fait, là c'est une super transition avec le point que j'abordais avant, c'est-à-dire qu'en fait ce que j'expliquais, pour moi c'est ultra calculatoire, mais c'est-à-dire que quand tu démarres ton premier tour, il faut que tu calcules effectivement tous les tours d'après de la manche comme tu l'as expliqué. Donc, mais le problème c'est pas tant ça, c'est que tu vas calculer, donc tu vas dire ok, si je fais cette action là en premier, ok, je prends ça, du coup j'ai telle ressource dans ma tête, ok, ensuite je peux aller faire ça, ok, maintenant du coup j'ai telle ressource là, ok, donc troisième, après je peux faire ça, puis attends, je peux faire ça, ok, c'est pas mal, attends, du coup si je fais autre chose pour commencer, ok, donc je fais pas l'action A, je fais l'action B, alors après du coup si je fais l'action A en deuxième, c'est mieux en fait. Attends, du coup après je fais l'action C, ok, non, ah ouais, d'accord, très bien. Bon, alors attends, maintenant si je commence par l'action C, que je fais ensuite la A, et puis c'est pas terrible. Attends, je prends la C, je fais la. Voilà. Moi c'est ce qui se passe dans ma tête quand je joue à Narak, premier tour d'une manche, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est trop orienté optimisation en fait. Et bon, parce que je cherche à gagner, hein, je l'avoue, hein, je cherche à gagner quand je joue à ce genre de jeu. Hein. Et d'ailleurs, franchement, mes résultats, ils sont pas trop mal, tu vois. Donc je me plains, je déteste, je souffre, hein, mais le résultat il est là. Mais autour de la table, les gens ils doivent souffrir hein, en même temps que moi, tu vois. Pas pour la même raison, mais mais ils doivent souffrir.
Objection, votre honneur. On est dans un jeu de gestion, normal qu'on calcule. Enfin, c'est le propre du jeu, comme dans beaucoup de jeux de gestion, on va devoir calculer les coups d'après, on peut pas jouer à l'opportunisme comme ça, je fais ça, et puis je sais pas vers quoi ça m'emmène.
En fait, t'as des jeux de gestion qui sont quand même plus dans l'intuition, tu vois, où tu vas faire un coup et tu vas pas forcément réussir à tout mesurer. Mais là, comme je disais, en fait, comme il y a quasiment pas de hasard, tu peux tout dérouler, en fait. Alors, t'auras, peut-être, si tu vas chercher un gardien, tu vas dire, OK, moi, je sais pas exactement ce qui va se passer, mais t'auras, c'est juste que ton, ce chemin que tu crées dans ta tête, cet arbre que t'es en train de créer dans ta tête, il va juste s'arrêter au moment du gardien, ou après, tu vas avoir un espèce de flou, quoi, tu vois. Mais, en gros, tu vas pouvoir aller jusqu'au gardien.
Ouais. Et, je prends par exemple les châteaux de Bourgogne, dont on a parlé il y a pas très longtemps. C'est exactement pareil. Tu vas bien faire ton chemin de qu'est-ce que je vais prendre comme tuile après, avec l'inconnu du dé. Mais t'as bien un chemin sur plusieurs tours à venir.
Non, parce que justement, t'es sur l'inconnu du dé, donc de toute façon, je réfléchis pas du tout, sur la manche complète à Château de Bourgogne. Je peux le certifier parce que j'y ai rejoué il y a pas très longtemps, en plus. Château de Bourgogne, ça te permet vraiment de, d'être plus au feeling, quoi. Il y a plein d'options qui de toute façon vont faire des points. T'essayes de regarder ce qui sur un court moyen terme va marcher. Là t'es obligé d'aller sur le long terme de ta manche. T'en auras que. En tout cas, si tu veux jouer de façon optimale.
Je vois pas comme ça, parce que effectivement il faut calculer, mais de toute façon tu n'as pas que l'inconnu du gardien, t'as aussi l'inconnu des autres joueurs. Parce que c'est quand même un jeu de placement d'ouvrier. S'il se place à un endroit, tu pourras pas y aller. Donc, pour moi, les inconnues, elles arrivent très vite et tu peux pas, c'est pas un jeu d'échecs à X coups devant. Et encore, un jeu d'échecs, il y a aussi l'adversaire qui va jouer entre temps. Donc, pour moi, tu peux pas calculer l'intégralité de ta manche au début de ta manche.
Et ben, moi, je calcule, monsieur. Voilà.
Et je suis sûr que ça se passe pas comme tu veux.
La plupart du temps, si, ça va, honnêtement. Ça arrive qu'effectivement tour 2 merde, finalement je suis obligé de recalculer parce que quelqu'un est venu sur ma place, voilà quoi. Tu regardes ton chemin, ton autre chemin, hein, ok, tu regardes dans ton arbre, ouais, ok, alors, attends, du coup je reviens par où, hein, tu recalcules parce qu'évidemment t'as tout oublié entre temps.
Faut prendre des notes,
le
monsieur.
Truc, c'est que...
Ah oui, c'est ce que j'allais dire là. C'est vraiment pour l'avoir testé sur Undergrowth, qui est un peu de ce genre de jeu aussi, où faut un petit peu avancer sa manche. Prendre des petites notes, c'est pas mal, hein. Tu apprécierais peut-être mieux Narak en prenant des petites notes.
Ouais, je devrais peut-être le faire. Hein. On se moquera de moi, mais.
T'aurais pas cette impression de surcharge mentale
Ouais, j'ai pas cette impression-là, moi, pas. Effectivement, je calcule un peu plus loin, mais de là à savoir ce que je vais faire toute ma manche, je pense pas que j'aille aussi loin, parce que déjà je suis très indécis sur quel chemin est le mieux, parce que pour moi il n'y a pas de chemin mieux vers quoi, vers plus de points, vers plus de ressources, vers plus de...
Vers plus de points, vers plus de ressources pour aller encore plus loin. En fait, globalement dans le jeu, plus tu arrives à pousser tes tours loin, tes manches loin, mieux c'est globalement. Après, sur la fin de la partie, tu commences à calculer, mais moi je pars du principe que sur le début de la partie, ce sera rentabilisé, tu vois. Enfin, le début, même plus que ça, jusqu'à l'avant-dernière manche. Plus loin tu vas, plus ce sera rentabilisé, tu arriveras à le rentabiliser. À la fin, ça se calcule. On arrive dans un autre aspect calculatoire du jeu. À la fin, tu vas calculer si effectivement il vaut mieux aller sur telles actions pour regagner des ressources ou tout de suite aller les cramer pour faire des points, quoi. Bon, c'est pas un calcul de ouf. C'est un calcul de fin de partie qu'on retrouve assez classiquement dans la plupart des jeux de gestion. Là, pour moi, on est sur le calcul de fin de partie. Là, ok, c'est la plupart des jeux de gestion sont comme ça. Il y a le dernier tour souvent un peu calculatoire. Tu regardes, ok, là je fais 3 points, là j'en fais 4. Ok, bon je vais prendre l'action à 4 points. Bon, voilà. Puis j'ai regardé l'autre, ça fait 2, ça fait 1, ça fait 3, ça fait peut-être 5. Ah merde, mais peut-être, tu vois. Donc du coup, peut-être que j'y vais pas, quoi. Et globalement, je trouve aussi que le jeu est trop souple, trop adaptable. Même quand tu te fais avoir, tu vas refaire des chemins mentaux. Parce que tu vas pouvoir tenter de reconvertir tes ressources autrement, tu vois, d'aller rechercher. Tu trouves toujours des moyens, en fait. C'est ce genre de jeu, c'est qu'il te fout dans une ornière, puis en fait, il te donne plein de moyens d'en sortir. Je sais plus quel jeu comme ça j'avais... Je me rappelle avoir parlé d'un jeu comme ça, dans un jeu du mois, en réponse à quelqu'un, où je... Merde, j'arrive plus à retrouver, là. Mais et ça j'avoue, je trouve ça assez pénible, quoi. Si c'est pour me donner des outils... Pour sortir de l'ornière, me fous pas dedans, quoi, tu vois. Fais plus simple, quoi.
Ça dépend ce que t'appelles l'ornière. Si l'ornière, c'est parce que ton petit camarade t'a piqué ta place, c'est pas le jeu que t'as mis dedans. c'est la, l'interaction avec les autres joueurs, mais bon, au contraire, je trouve...
c'est ce que propose le jeu. Ce que propose le jeu, l'interaction avec les autres joueurs.
Et alors moi, je vois pas tellement de quoi tu parles, à part peut-être les idoles que tu dépenses pour effectivement aller récupérer des ressources de dernière minute, en gros, qui te manquerait pour vaincre un gardien. Mais cette souplesse,
bah oui, ça par exemple, ouais.
Ouais, mais cette souplesse là, elle se fait au détriment de points. C'est une souplesse, mais quand tu le fais, tu vas sacrifier des points de fin de partie. Donc c'est pas de souplesse pour moi. Tu achètes cette
possibilité.
Mais
c'est une souplesse quand même. Bah ouais, mais du coup ça te permet d'aller plus loin dans ton tour, effectivement, tu vois, on te donne un outil pour sortir de l'ornière. Ok, ça te coûte des points, mais la plupart des joueurs vont les utiliser à un moment, donc au final ça te coûte pas tant de points que ça relativement aux autres, tu vois ce que je veux dire?
Si tout le monde les utilise, ouais, j'ai déjà fait des parties avec des gens qui les utilisaient pas, et du coup, ils mettent tout de suite 10 points de plus.
Ouais, mais bien sûr, mais une partie ici, une partie là, il y a toujours des contre-exemples,
ouais.
Tu vois.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que 10 points, on en a pas parlé, mais une partie, ça se fait en 70-80 points. Donc, économiser 10 points, c'est pas négligeable, tu vois. Est-ce que cette souplesse vaut le coup?
La plupart du temps, elle te rapporte les 5 points du gardien, déjà. Tu vois, donc généralement le calcul il est vite fait en fait, parce que ça te permet de te sortir tout de suite du gardien, et parce que effectivement ça c'est le cas vraiment typique, hein, pour le coup, hein. C'est t'arrives sur le gardien, t'as pas ce qu'il faut, j'ai pas ce qu'il faut, ah mais c'est vrai, de toute façon je viens de récupérer une idole, parce que quand tu vas taper un gardien, tu récupères une idole tout de suite. Donc en fait c'est là que je te dis, toi le jeu il te fout dans une ornière et hop, tu donnes tout de suite les outils pour en sortir. Assume que tu vas taper un gardien, potentiellement tu vas te casser les dents, soit t'as préparé ton coup, soit tu viens à poil et t'assumes, quoi. Bah là en fait tu peux venir à poil et puis le jeu il te dit c'est pas grave, t'inquiète, viens à poil, de toute façon ça va bien se passer. T'auras un bonus de toute façon.
Alors si tu viens à poil, l'idole te suffira pas à vaincre le gardien, hein, parce que l'idole te donne pas tant de bonus que ça quand même. Mais...
Bien sûr, mais bon, si je fais pas un petit peu de mauvaise foi, moi,
voilà,
pour le compte, tu sais,
hein,
je suis pas sérieux. non, mais bien sûr. Mais je veux dire, si te manque un ou deux trucs, tu vas les trouver, quoi.
Je trouve que c'est justement ça qui est agréable avec ce jeu. Bon, ça y est, je perds un petit peu de ma...
Aïe.
On n'aura pas attendu la fin.
Attends, il n'y a pas un
whiz-whiz
pour ça aussi.
La souplesse est un des... Alors, j'ai pas dit que tout était tout bien sur Narak, mais en tout cas, cette souplesse, moi, c'est un des points que j'aime, justement. C'est ce côté où on n'est jamais vraiment coincé. Et même si on s'est gouré un peu sur un début de manche, on a quand même de quoi revenir un peu dans la partie. Et justement, si on n'a pas été très bon sur le côté hyper calculatoire du truc, on a quand même une sorte de bouée de sauvetage qui va nous dire « Hop, t'es quand même remis dans le game et t'es pas complètement mis de côté. » Et ça, je trouve ça plutôt agréable. Et ce qui fait que c'est
je peux le comprendre, mais moi c'est pas trop le sentiment que je cherche dans ce style de jeu. Hein.
Pour une fois qu'on joue pas tous chacun de son côté.
Ce que tu trouves.
Moi je trouve qu'il y a une interaction, mais je crois qu'on en parle plus tard. Mais.
Ouais, oui, on en reparlera plus tard. Mais tu vois, typiquement, on a beaucoup comparé d'une Imperium qui est sortie juste après, hein, que j'avais chroniqué aussi d'ailleurs dans les jeux du mois. J'ai trouvé ça justement hyper intéressant de venir analyser les deux avec des propositions différentes de deux jeux qui font à la fois du deck building et de la pose d'ouvrier mélangés. Ben, encore une fois, hein, c'est ni un jeu de pose d'ouvrier ni un jeu de deck building d'une Imperium, hein, tout comme Narak, c'est juste des propositions qui viennent assembler des mécaniques. Et dans une Imperium, il se passe des trucs, quoi. Tu vois, d'une Imperium, tu vas foutre tes troupes. Juste si t'es pas venu armé, c'est pas le jeu qui va te sauver en te donnant une carte derrière, parce que dessus, d'un seul coup, il y a des troupes, quoi. Tu vois, c'est c'est. T'as fait les choses pour ou t'as pas fait les choses pour, quoi.
Non, justement, non, parce que d'une Imperium, alors là, pour ma part. C'est pas le sujet du jour, mais je le trouve vraiment plus froid, hein, d'une Imperium. Déjà, thématiquement, on est un peu à l'ouest, hein. D'où le baron Harkonnen, il sympathise avec les Fremen, avec les alliances. Faudra m'expliquer, mais bon, bref. Et au contraire, je trouve que c'est aléatoire aussi dans les combats. Parce que tu peux aller choper des cartes, je sais plus comment c'est, les cartes.
Ah bah oui, mais moi, intrigues. J'ai dit que j'aimais le hasard.
Ah! Parce que tu vas mettre toutes tes troupes, tout ça, et puis il y en a un qui va sortir une carte. Ah bah tiens, moi, je rajoute 4 de combat.
Là, je siffle la fin de partie sans mon sifflet parce que j'avais pas mis ça dans les règles. Mais on fait pas le pour jouer le compte de Dine Imperium.
C'est vrai, messieurs. C'est vrai. Ça sera
un autre
rôle.
Faisons le pour et le compte des ruines perdues de Narak. Donc on va revenir aux ruines perdues de Narak, s'il vous plaît. Laissez la planète et tous ces gens tranquilles. Arrakis, voilà, merci. Et revenons à la jungle, à nos gardiens, etc. Et qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des cartes, c'est du fait qu'elles puissent être utilisées de différentes façons.
Ouais. Non, mais c'est quand même intéressant. Enfin, c'est pas pour, je vais pas épiloguer, mais c'est comme je disais, c'est deux propositions différentes. Et tu vois, c'est quand même intéressant de voir que effectivement, on n'est pas d'accord non plus sur Dune Imperium, parce que du coup, ça explique quelque part des choses, quoi. Tu vois.
Et oui.
Et donc l'utilisation des cartes, l'utilisation multiple des cartes. Bah écoute, j'ai pas grand-chose à dire en fait sur ce sujet, j'avoue. c'est encore un aspect mécanique supplémentaire. C'est bien de le citer parce que on voit que c'est encore aussi un ludème différent que propose le jeu. Et moi j'ai rien ni de pour ni de contre là-dessus. J'aime plutôt bien ce principe, donc pourquoi pas.
C'est clair que c'est quelque chose que j'apprécie aussi. D'avoir ta carte en main et de devoir te demander ce que tu vas en faire. C'est-à-dire que ta carte va te servir soit à te déplacer, soit à gagner des bonus. Et à un moment, tu vas te dire, ben, j'ai besoin de me déplacer, mais j'aimerais bien le bonus et il va falloir trancher. Alors, ça va encore ajouter une branche dans les calculs de Cyrus, ok. mais pour moi, je trouve que justement, c'est intéressant d'avoir cette contrainte de se dire, ben, dans toutes mes cartes, de toute façon, si je veux tous les bonus, ben je jouerai pas de bonhomme, et si je veux jouer mes bonhommes, et ben je jouerai que 3 cartes pour leur effet. Donc il y a comme ça cette recherche de ben laquelle je veux vraiment jouer, laquelle va me servir à me déplacer, et du coup par là, ben ça va peut-être nous influer sur l'endroit où on va aller, parce qu'on va à tout prix vouloir garder cette carte-là pour jouer son effet, donc on va pas la jouer pour se déplacer, et du coup ben voilà, on a comme ça cette possibilité et ça va être un sacrifice. Et voilà, qu'est-ce que j'en fais ? Moi, ça me plaît.
Mais effectivement, ouais, ça peut ajouter des embranchements. Et ça, c'est quand même c'est un problème. Alors parfois, ça peut te le simplifier parce que parfois, il y a vraiment une action que tu vas vouloir utiliser et du coup, ça va te le simplifier. Mais je trouve que en proportion, j'ai quand même l'impression que ça a plutôt tendance à rajouter à l'arbre, à rajouter des branches, plutôt qu'à te le simplifier, quoi.
Mais l'autre aspect qui est intéressant, c'est, on parlait tout à l'heure des artefacts qui vont être un one-shot parce qu'ils s'activent quand on l'achète, mais après, ils sont assez chers pour les redéclencher quand ils sont dans ma main. Mais en contrepartie, il m'apporte un symbole avion, qui est le joker pour se déplacer. Donc, je ne me servirai peut-être plus de l'artefact en tant que tel, mais par contre, j'aurai un super symbole de déplacement. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce qu'on voit que même une carte qui est compliquée peut-être à rejouer va quand même avoir son intérêt dans le deck.
Elle n'est pas du bois mort si on garde la métaphore de l'arbre, c'est pas une branche morte dans ta main.
C'est ça, et même si elle n'est pas complètement morte parce qu'elle amène des points en fin de partie, mais elle aura même une fonction dans la partie. Et pareil, dans les cartes objets, il y a des fois, j'ai déjà été acheter des cartes parce qu'elles avaient deux symboles. Parce qu'il y a des cartes comme ça qu'ont deux voitures ou deux bateaux qui vont permettre d'aller plus loin dans l'exploration. Et des fois, je les ai achetées pour les symboles et pas pour le bonus qu'il y a dessus. Parce que j'avais en prévision d'aller me déplacer plus loin et que je voulais pas cramer deux cartes pour déplacer un bonhomme. Donc voilà, cette double utilisation possible est pour moi super intéressante et amène des réflexions qui pour moi me plaisent. Je comprends que ça fait des possibilités, mais moi ça me plaît.
Ok, et là on va parler un peu de la montée en puissance du jeu, du fait aussi que le nombre d'actions va potentiellement pouvoir augmenter au fur et à mesure de la partie, et que chaque joueur et joueuse ne vont pas forcément avoir le même nombre d'actions vu que c'est cette idée d'essayer de tirer au maximum les cartes qu'on a en main pour parce qu'à chaque tour de jeu de joueur et joueuse, on fait une action par tour. Et donc potentiellement, une manche va pas être composée du même nombre de tours par joueur et joueuse. Si je suis arrivée à faire plus d'actions que quelqu'un d'autre, je vais peut-être jouer deux ou trois fois de plus que lui ou elle. Ça, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, tant que les niveaux à la table sont relativement équivalents, ça va. Si vraiment il y a des niveaux différents et qu'il y en a un qui s'arrête au bout de trois actions et que l'autre il finit par en faire vite, c'est sûr que ça va gêner en particulier la personne qui n'en fait que trois. donc effectivement, enfin, je peux comprendre l'argument qu'il y a des gens que ça va gêner, mais je pense que globalement, à niveau équivalent, on va tous jouer à peu près le même nombre de tours, ça devrait à peu près bien se passer, quoi.
Ouais, j'ai jamais vu plus de un ou deux tours d'écart grand maximum entre les joueurs. Mais c'est vrai qu'après, on joue dans un petit noyau de joueurs, ouais. Après, moi, ce que je trouve intéressant, pas tant dans les actions, mais dans le nombre d'actions, mais dans les actions possibles, je trouve qu'on a un vrai développement du jeu. Au-delà du nombre d'actions qui augmente, on a aussi la qualité des actions qui augmente. On a un espèce de moteur, on va dire, parce que quand on va découvrir des sites avancés, bah si. C'est nos persos, au lieu d'aller les mettre pour récupérer que deux boussoles, on va les mettre pour récupérer un joyau et une pointe de flèche après. Et ces actions vont devenir de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'on découvre des sites avec des objets plus importants, plus intéressants. Enfin, des objets, faut pas que je dise objets parce que c'est des cartes, mais avec des ressources plus intéressantes.
Ouais, mais à côté, on te demande de dépenser de plus en plus de ressources. Donc du coup, ça fait pas du tout un effet de développement. Au début, on te demande un, t'obtiens un. Ensuite, on te demande deux, t'obtiens deux. Ensuite, t'obtiens trois, on te demande trois. Tu vois, enfin, du coup, pour moi, ça me donne pas du tout une impression de développement. C'est juste, enfin, c'est hyper artificiel en fait. Ouais, si tu fais le calcul comptable, oui, effectivement, t'arrives sur une action qui est plus puissante. Mais pour monter sur la piste d'exploration, bah en fait, il faut toujours plus de trucs. Donc alors, ouais. En revanche, oui, il y a de plus en plus d'actions malgré tout, parce que tu as des cartes un peu mieux, donc tu arrives à pousser ton tour de plus en plus loin, et ça fait aussi que du coup c'est de plus en plus long, c'est de plus en plus de calculs à faire potentiellement. Moi, je suis pas fan.
T'as quand même une montée en puissance, parce que au premier tour, si t'arrives à monter de 1 sur la piste de recherche, c'est déjà beau. Alors que dans les derniers tours, tu montes de 5 cran facilement, on va dire, si tu te taxes là-dessus. Donc, il n'y a pas que du « je gagne 2 maintenant » ou « là où je gagne 1 » et « on m'en demande 2 quand on m'en demande 1 ». Tu vois, c'est, pour moi, il y a vraiment cette montée en puissance et on la ressent. Et j'ai du mal à dire d'où elle vient, parce qu'on a toujours que deux bonhommes et effectivement, on va pas gagner 5 fois ce qu'on gagnait au départ. Donc, c'est vraiment cette synergie de cartes, de petits bonus qu'on va débloquer, de gardiens qu'on a vaincus qui nous amènent un petit truc, d'idoles qu'on va pouvoir dépenser pour retrouver des ressources. Donc, pour moi, je la sens, la montée en puissance. Et ce nombre d'actions est relatif à ça, quoi.
Pour moi, c'est hyper artificiel, vraiment. Parce qu'en fait, c'est des friandises qu'on te place à gauche, à droite. Et en fait, il faut monter sur la piste. C'est comme si, ça me fait penser au dessin animé, tu sais, où t'as des petits animaux, tu sais, tu leur sèmes des trucs, tu sais, et hop, ils les ramassent, ils les mangent, hop, ils les ramassent, ils les mangent, puis t'avances comme ça. Et en fait, t'as l'impression d'être mené du bout du nez par le jeu, comme ça. Bah, en fait, il faut aller là, tu vois. Regarde, va là-bas. Les ressources, elles sont vachement mieux, il y en a plus. Oh là là, regarde, oh, puis comme ça. Oh, regarde, tu peux monter là. Oh, regarde, oh, monte. J'ai vraiment l'impression qu'on se fout de ma gueule, mais que ouais, qu'on me dit un peu quoi faire, quoi. Moi, je trouve assez scripté pour moi,
hein. En termes d'action à faire, tu trouves qu'on fait tout le tour la même chose, c'est ça?
Mais je crois que c'est un argument que j'ai plus tard, donc du coup je n'ose pas mais je vais le dire, oui, non mais je vais le dire là, parce que j'ai un peu le sentiment d'une partie à l'autre de faire globalement la même chose, quoi. Tu vois, de, je sais pas, j'ai... là on a fait, toi, deux parties récemment. Alors si je fais attends mince, c'est pas la même friandise là sur le côté là, non, il y avait pas ça la dernière fois, parce qu'effectivement on avait joué avec l'autre côté du plateau, et donc tu vois j'ai vraiment ce côté tiens c'est pas le même bonus là, donc et du coup je vais pas faire exactement le même chemin, mais il y a juste un recto verso quoi, et ça moi je trouve ça aussi relativement artificiel, et ça m'a pas donné l'impression en plus d'avoir joué de façon assez rapprochée, tu vois, sur le recto et le verso, d'avoir fait des parties très différentes, quoi. Il y a une petite saveur, tu vois, une petite saveur légèrement différente, tu vois. Il y a un côté c'est piment de Cayenne et de l'autre côté c'est piment machin. Mais c'est, ouais, voilà, quoi, c'est léger, quoi. Hein. C'est entre le chocolat de Madagascar et le chocolat d'Éthiopie, quoi. C'est un peu bon.
Je préférais quand tu quand même. Dis. Je préférais quand tu parlais de piment. Au moins c'était un petit peu relevé, quoi. Mais bon.
C'est... Ouais.
Le chocolat c'est pas mal aussi, hein.
Ouais. Ouais,
il donne quand même des exemples de trucs qui sont pas mauvais, quoi. Donc ouais, comme ouais, quoi, il ça, aime bien vrai. Un peu.
Non,
hein.
Je suis sympa.
Alors,
sympa.
Je vais te rejoindre sur ce point-là. C'est vrai que si on reste sur le jeu de base, au bout d'une peut-être une dizaine de parties, je pense qu'on peut effectivement penser qu'on fait beaucoup de fois la même chose.
Ah bah voilà, on est d'accord, Drew. Mais on parlait du jeu de base, donc très
mais,
bien.
Oui, mais moi j'ai pas fait. J'ai eu vite l'extension après. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mais alors on fait la même chose, mais on peut scorer de manière différente. Et on peut, je veux dire, il y a pas de martingale pour gagner. On est sur une salade de points. On l'a pas encore dit. Hein, il y a 4 ou 5 axes pour gagner des points. Il faut tout faire, un petit peu tout, mais on peut gagner de manière différente. C'est-à-dire que moi, d'habitude, je suis beaucoup sur la piste de recherche. Et la dernière partie qu'on a fait, j'ai pas vraiment progressé sur la piste de recherche. Je suis peut-être monté à la moitié, et encore. Et j'ai fait plus les gardiens. Et ça marche aussi. Donc, je trouve c'est qu'il y a moyen de faire des parties différentes. Notamment parce que j'ai vu des parties où on n'avait pas exploré du tout le deuxième niveau et pas complètement le niveau, hein, où on avait plus été sur la recherche ou acheter des cartes. Ou... Donc voilà, on a tous ces curseurs sur lesquels on peut jouer pour faire des parties différentes. Alors, je dis pas qu'il faut se forcer à changer les curseurs pour faire des parties différentes, mais naturellement, moi, j'ai eu des parties complètement différentes sur un jeu où je peux reconnaître que tu peux en faire le tour, effectivement. T'as 4 axes de progression, la piste de recherche, les gardiens, les cartes bleues, les cartes marron. Voilà, t'as vite fait le tour de ce que tu peux faire pour débloquer des points, quoi. Mais moi, je trouve que ça marche bien.
Ok, donc l'interaction, on en avait parlé déjà un petit peu tout à l'heure, donc on va pas forcément revenir dessus. Je vais vous parler de l'attente entre deux tours. Est-ce que vous trouvez...
Bah c'est très long parce que Cyrus, il arrête pas de calculer, madame. Voilà. Alors, moi, j'en voilà. peux plus, moi.
Ben voilà, on est d'accord. Et c'est le cas avec d'autres joueurs-joueuses. Oui, moi, je le dis volontiers. Moi, je suis sujet à l'analysis paralysis. Hein. C'était un de mes premiers arguments. Pour moi, c'est une torture, ce genre de jeu. Hein. Et voilà, je fais pas l'analysis paralysis par plaisir. Hein. C'est juste, voilà, j'essaie de jouer correctement, d'être un adversaire dans le jeu, tu vois, intéressant pour mes joueurs et joueuses qui m'a les joueurs et joueuses qui m'accompagnent. Et donc de jouer le jeu entre guillemets quoi. Et ce genre de jeu, ouais, non, c'est compliqué. Hein. Ouais, l'attente entre deux tours, elle peut être longue, ouais, effectivement.
Moi, j'avoue que j'ai eu, c'est le jeu où je suis arrivée à faire cramer une soupe. Mais vraiment, hein, cramer ce que je jouais avec un jeu.
Il y a beaucoup d'eau quand même dans une
oui,
soupe.
Oui, voilà. Et donc, voilà, elle était, il y a eu 1 cm de brûlé au fond de la soupe. Parce que je jouais avec quelqu'un, mais qui mettait des heures à jouer. Et moi, je joue plutôt assez vite. Parce que je joue un peu à l'instinct, quitte à pas me... Et mais c'était l'enfer, quoi.
T'as joué avec Cyrus ?
Non, c'était pas Cyrus. Et c'était quelqu'un avec qui je me suis dit, je ne rejouerai plus jamais à Narak avec lui. Parce que, en plus, à chaque fois que je faisais un truc que je faisais plutôt à l'instinct, il me faisait rire parce qu'il me disait, ah ouais, mais si tu fais ça, c'est parce que t'as nanana et nanana, parce que tu vas vouloir faire ça derrière et parce que, et en fait, j'avais juste envie de lui dire, bah non, c'est pas que j'ai joué au pif, histoire que t'avances et qu'on finisse cette partie qui est interminable. Et ouais, parce que je veux manger la soupe avant que vraiment ça soit plus qu'un bloc de charbon.
Et il a pas senti le cramer de la soupe comme message.
Ça a pas suffi. Ah.
Ouais, c'est... Alors, ouais, je peux comprendre. Alors, je peux comprendre qu'il y en a qui calculent, mais moi, il y a certains coûts, je les calcule pas, quoi. Il y a des coûts, tu sais que t'as besoin d'aller sur ce lieu-là pour gagner ces ressources-là. Tu réfléchis pas 2 minutes, t'y vas, tu poses ton ouvrier, c'est parti. Hein. Les calculs, pour moi, ils sont plutôt comme on en parlait à la tout à l'heure, à la fin du jeu pour optimiser mes derniers points et comment grappiller les points qui me permettent de monter au-dessus de la piste avant mon collègue, quoi. Mais j'ai pas analysis paralysis à tous les coups, tous les tours, quoi. C'est
non, et... mais c'est pas tous les tours, parce que en fait c'est surtout les premiers et tu vois tes derniers coups de la manche, ils vont être un peu plus téléguidés, quoi. Parce que bah ton arbre au moment t'es sur une branche, il y a plus grand chose. Mais les premiers, je trouve que c'est long.
Ah non, moi j'ai le sentiment inverse, parce que justement dans les premiers t'as tellement l'aléatoire d'où vont aller tes collègues que tu peux pas calculer. Tu sais pas s'ils vont pas
mais
te prendre
si.
De ce que tu vas aller.
Bah si, tu calcules et si jamais on t'a pris ta place, tu recalcules au deuxième tour. C'est là que c'est là ça fait déjà 2 tours très longs.
Ah bah. Tu vas pas calculer toutes les branches en imaginant tout ce que ton voisin peut faire pour et tout ce qu'il va prendre, quoi. Tu veux pas calculer tous les arbres de tout le monde.
T'imagines pas tout, mais tu comment dire, il y a des trucs plus probables que d'autres. Puis selon ta position dans le tour aussi, enfin, il y a si t'es premier à jouer, tu sais où tu peux te placer en premier, hein.
Ah mais c'est ça. En général, je finis le tour précédent. Si je sais que je suis premier prochain tour, je sais où je vais. Je sais ce que je fais déjà au tour d'après. Enfin, j'ai des réflexes aussi peut-être. C'est peut-être ça aussi qui biaise mon approche, c'est que en y jouant beaucoup, tu prends des réflexes de jeu. Donc, c'est peut-être ça aussi qui accélère mes calculs de partie. Je sais pas. Peut-être.
Peut-être. Mais
clairement, moi, je file sur les boussoles. Il y a pas.
Avec
ouais, il paraît.
Chez gardien, quoi.
Il paraît. Non, bah écoute, on joue pas de la même façon visiblement. Hein, moi de mon côté, je calcule, monsieur.
Ouais. Eh bien, ensuite, on avait prévu de parler du scoring. Vous êtes déjà un petit peu revenu dessus tout à l'heure. Est-ce que vous voulez compléter ce que vous avez dit ? Moi, j'avais l'impression qu'en jouant que quand même on était quasiment obligé de partir sur l'exploration du temple et de la partie connaissance là, la piste des connaissances. D'après ce que tu me disais tout à l'heure, Drew, pour toi on peut aussi gagner en faisant les gardiens au maximum. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est ce qu'on a fait dans la dernière partie là, qu'on avait fait juste avant cette émission. Hein, on a fait une partie en ligne et justement j'ai pas été trop sur la piste de recherche. J'ai laissé partir mes collègues et j'ai fait plus de gardiens et ça s'est équilibré. Alors, on a fini à 1 point d'écart avec Cyrus sur cette partie-là, donc l'équilibre est pas mal, je pense.
Ouais, mais tu peux pas non plus ne pas la faire du tout, tu vois.
Non,
la
tout à
piste.
Fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire un peu
c'est
de tout.
Ouais. T'es quand même obligé de faire un peu de tout, de toute façon. Ouais, bah ne serait-ce que t'as quand même des bonus dont t'as du mal à te passer, quoi. C'est les assistants par exemple, eux ils sont sur la piste justement d'exploration. Si tu t'en passes, c'est quand même un peu dommage, quoi. Bon, alors, est-ce que tu peux le compenser par autre chose? Je me rends pas bien compte, mais je pense pas, parce que il faudrait que ce soit plus. Des pioches du coup de cartes, parce que j'allais dire, tu vois, c'est même pas des cartes, parce que des cartes t'en pioches 5, donc en fait il faudrait que ce soit des pioches de cartes pour compenser ça. Et en même temps, du coup, des cartes plus intéressantes que celles de départ. Donc, ça me paraît compliqué. C'est pour ça que pour moi, il y a un côté un peu téléguidé quand même, tu vois. Alors, oui, tu peux lâcher la piste d'exploration à un moment, parce que peut-être que retourner ton assistant, c'est pas si important que ça. Mais en avoir deux, c'est quand même pas mal, quoi. Donc,
Ouais, mais c'est ça, justement. Avoir sur la première face du plateau, la plus basique, on va dire. Je crois que monter suffisamment pour avoir 2 gardiens, je crois que tu gagnes 6 points, 8 peut-être grand maximum. Donc c'est pas grand chose comparé aux 23 quand t'arrives premier tout au long de la piste de recherche, plus le calepin que tu peux monter à côté. Tu vois, mais effectivement, moi à minimum, je vais chercher 2 assistants sans les retourner. Tu peux pas t'en passer pour moi. Il y a comme ça des minimums à faire dans le jeu.
Ok, est-ce que vous avez d'autres choses à redire sur la mécanique, sur les points, ou est-ce qu'on passe à la partie immersion matérielle?
Bah, on va peut-être un peu se répéter, hein, mais Bah, je trouve, enfin, on en parlait avec professeur, je sais plus, on parlait quand on a fait les châteaux de Bourgogne, justement, que les histoires de salade de points, ce qu'on disait surtout, c'est que, ça aussi, typiquement, ce scoring multiple, c'est devenu un outil de game design. C'est-à-dire que là aussi, c'est un ludème pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une espèce, c'est un ingrédient qu'on vient rajouter dans les jeux. C'est pas une mécanique, hein, parce que c'est du scoring. Mais, c'est un objet de game design. C'est un truc qui a été mis dans Les Ruines perdues de Narak. Et, c'est pas ce sentiment, en tout cas, qu'on a évoqué dans les châteaux de Bourgogne. Où t'es plus en mode à l'instinct, ou quoi que tu fasses, tu vas à gauche, tu vas à droite, finalement ça va faire des points, et puis derrière c'est des points qui vont se comment dire, tu continues un petit peu dans cette voie là, ça va s'améliorer, ça va continuer à faire des points, etc quoi. Il y a ce petit côté un peu là sur la piste d'exploration, mais pas sur le reste du jeu. Sur le reste du jeu, bah t'as les cartes, elles te font des points, t'as les gardiens, ils te font des points, mais ils font toujours le même nombre de points. C'est pas plus t'en fais, tu vois, plus ça va faire de points, y a pas ce côté, je trouve qu'il y a pas de côté gratification vraiment, en fait. T'as pas ce côté où plus tu pousses et plus c'est bien, plus ça fait des points, plus ça fait en fait tu les vois pas trop. Ce qui remplace un peu la gratification, c'est plutôt la gratification du scoring. Ce qui le remplace, c'est plus ce que je l'expliquais tout à l'heure, c'est les petits bonus qui sont étalés, qui font un peu office de friandise. Ça, ouais, mais pas le score en tout cas. C'est pas le score. C'est un truc artificiel. Un truc qui est rajouté à côté du score pour dire, ok, regarde, si tu montes là, c'est bien. Ça te fait des bonus, puis en plus, tu verras à la fin, ça te fera des points, quoi. Mais en fait, si tu regardes les points, tu fais en fait, je veux pas aller là, ça me fait deux points.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord, parce que sur la piste de recherche, à chaque montée de marche, tu gagnes plus de points, et la marche suivante amène plus de points que t'as amené la marche d'avant, et etc. etc. Les dernières
marches,
c'est
à chaque fois ce que je dis, c'est plus un, plus deux, en fait, tu vois. C'est en fait, si tu regardes le score. Tu fais, en fait, je vais jamais y aller, là, ça sert à rien, hein, ça fait pas de points. Enfin, toi, d'un step à l'autre, ça fait rien, quoi. C'est infime.
Je pense que toutes les pistes de scoring sont pareilles dans Narak. C'est-à-dire qu'aller acheter une carte, c'est 1, 2, voire 3 points pour la carte qui rapporte le plus, c'est pas grand-chose. Une montée de marche sur la piste de recherche, c'est 1, 2, puis à la fin, tu finis à 8 avec la dernière marche, si tu veux. Mmh. Mais voilà, c'est. On grappille des points partout. Il y a peut-être que les gardiens qui font 5 points d'un coup, mais ça va te prendre 2 ou 3 actions pour le faire, parce qu'il faut aller explorer, puis après il faut le comme on dit déjà, c'est
maîtriser.
Ouais. Enfin voilà, donc on fait pas des gros
coups.
Dire,
t'es jamais en mode putain, j'ai touché le jackpot, quoi. Là c'est cool, là, tu vois. C'est toujours en mode ok, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2.
Alors que dans Dune, plus 1, c'est le jackpot.
Ah oui, dans Dune, plus 1, c'est le jackpot, ouais. Non, mais c'est clair, on n'est pas du tout sur la même échelle, ouais.
On a dit qu'on parlait pas de Dune, attention, tu vas te faire whizzer.
Ouais, c'est toi, hein. c'est lui qui a commencé. Madame l'arbitre, est-ce qu'on pourrait
Non, là, c'était Drew qui avait commencé.
Le magnéto, s'il
vous
plaît.
Vous avez vu, j'ai mis un bonbon, il a couru sur le bonbon.
Bah ouais. Alors, messieurs, je vous propose de passer, si on veut pas faire une émission de 2 heures, sur la partie immersion et matériel. Est-ce que vous avez l'impression d'être Indiana Jones ou Lara Croft en train de vous balader dans la jungle et à la découverte de merveilles et de temples perdus?
Moi, je crois que je l'ai dit en intro. Hein. J'ai le droit de le redire quand même. Non, mais à aucun moment j'ai l'impression d'explorer des contrées perdues. Non, c'est le seul truc que j'explore, ce que je disais, c'est les enchaînements d'actions. Tu vois, le A puis B puis C puis B. Alors attends, B puis A. C'est tout. Non, je ne me sens pas dans la peau d'Indiana Jones.
Et toi, Drew, est-ce que tu mets ton Stetson?
Alors que quand il fait un Race for the Galaxy, il parcourt la galaxie. C'est incroyable.
Non, mais il y a d'autres choses qui m'intéressent.
Donc, effectivement, je ne me sens pas non plus dans une Jeep au milieu de la jungle ou en train de tailler la mangrove à la machette. Mais je trouve que la thématique, c'est un vrai plus du jeu et je pense qu'elle a été très bien utilisée pour la cohérence des règles. Typiquement, quand on va se déplacer sur les premiers sites, c'est des sites qui sont proches, donc on va se déplacer avec des cartes bottes. Si on veut aller un peu plus loin, eh ben on va jouer des cartes voitures ou bateaux. Puis si on veut aller encore plus loin, ben on va jouer deux voitures ou deux bateaux parce qu'il faut plus de déplacement. Et puis ben pour aller sur les sites, on va utiliser quoi ? Ben des boussoles parce qu'il faut se repérer. Voilà, les boussoles vont nous permettre de nous diriger dans la jungle. Donc encore, c'est très cohérent. Pareil, on va acheter de l'équipement. D'équipement, ça s'achète auprès d'un marchand, donc on va dépenser des pièces. Puis à côté de ça, on va pouvoir aussi trouver des idoles dans la jungle. C'est des cartes bleues. Et ces idoles, ben, pour les acheter, c'est des boussoles, parce qu'on va chercher...
Des artefacts, ouais. Plutôt.
Les, pardon.
Les idoles, c'est...
On va chercher
c'est...
des... Avec les gardes. On va chercher des cartes artefacts, effectivement, qu'on va payer en boussoles. Encore une fois, les boussoles qui servent à chercher. Donc je trouve tout ça, c'est cohérent et ça permet de s'imprégner des règles, tu vois. C'est je veux me déplacer, tiens, je me déplace à pied, je vais moins loin, etc. Donc pour moi, ça, c'est vraiment cette... même si on n'est pas dans la jungle, je trouve qu'on a une thématique mécanique bien imbriquée.
Oui, je suis assez d'accord sur la partie exploration. En revanche, c'est vrai que sur la maîtrise des gardiens... quand tu faut leur filer un moyen de transport, c'est un petit peu bizarre quand même. Moi, je vois mal le griffon rentrer dans une Jeep. Donc là, je trouve qu'il y a deux, trois trucs qui sont un petit peu... Voilà.
Mais
qu'on leur file des joyaux, pourquoi pas ?
Mais il n'y a pas trop de joyaux. Hein. Les gardiens, il y a... Pour moi, j'ai plus le sentiment que c'est des
pointes de flèche. Il faut plutôt leur défoncer la tronche quand même, hein, les gardiens. On va se le dire. Hein. Il y a quand même un objet revolver qui sert à maîtriser les gardiens. Il y en a un autre. C'est quoi ? Ah, c'est des l'arc et les flèches, je crois aussi. Il y a un truc comme ça qui aide à maîtriser les gardiens.
Ouais. C'est parce que, alors ça, je pense que ça a été gentil, parce qu'il faut pas dire qu'on blesse les animaux. Je pense que, voilà, c'est, dans la règle, ils ont dû se faire un peu violence, donc ils ont pas mis qu'on devait battre les gardiens ou autre synonyme violent, quoi.
Ouais, parce que ce qui en soi est pas si mal, hein.
Bah ouais, mais du coup, dans ce cas, tu mets pas un revolver et des flèches, quoi.
Non, en effet.
En plus, pour le coup, enfin, honnêtement, je me suis dit, attends, je vais aller quand même trouver des arguments. J'ai dépilé les cartes. C'est plutôt cohérent, tu vois, entre les effets et le titre de la carte. Et donc, comme le dit Nourou, le jeu, ils ont fait le job d'aller chercher des moyens d'expliquer les règles, tu vois. Mais trouver des moyens d'expliquer les règles et mettre un thème, c'est pas t'immerger. Comprends, c'est pas parce que on utilise un terme et que le terme il est associé à j'utilise une Jeep, je déplace mon bonhomme sur l'endroit où il y a un nouveau site, c'est pas pour ça que j'ai l'impression d'aller sur ce site. Alors je dis pas que c'est le genre de truc facile à évoquer dans un jeu, mais tu vois, cette idée de mouvement typiquement, elle est plus facile à percevoir dans un jeu de course où tu vas vraiment être, voilà, je pense à Hit par exemple, où t'es Hit, H-E-A-T, hein, parce que je dois très mal le prononcer, le jeu de course où là t'as vraiment ce sentiment de tirer la bourre, de te rapprocher de quelqu'un, de te faire distancer, genre de choses, toi. Là il y a cette idée de mouvement. Dans un jeu comme ça va être très compliqué, hein, j'ai envie de dire, n'essayez peut-être pas d'aller sur ce terrain. Mais en fait tout est comme ça, quoi, dans le jeu. Et en fait il y a jamais rien qui est hyper percutant pour te faire ressentir quelque chose. Typiquement pareil, toi, sur la piste de recherche, comment s'appelle déjà la piste?
La piste de recherche.
Je crois qu'on a dû dire piste d'exploration.
Que j'ai parlé de piste de connaissance.
C'est
aussi.
Ça, c'est piste de recherche.
C'est recherche. Ouais. Oui.
Piste de recherche, c'est pareil, en fait, à aucun moment. En plus, là, pour le coup, le prétexte n'est pas forcément très bien trouvé. Des fois, il faut donner des joyaux. Pourquoi tu donnes des joyaux? Alors, c'est vrai que je crois qu'on donne jamais... Il y a peut-être des pointes de flèche aussi.
Bon. Oui, tu donnes un peu de tout.
Ouais, les tablettes, je peux comprendre, tu vois, c'est, ça paraît logique, c'est bon, ok, t'as trouvé des tablettes avec un ancien langage, machin, toi, ça pourrait être logique. Il y a des trucs qui sont pas très logiques. Et puis, enfin, de toute façon, ce que, enfin, là où je veux en venir surtout, c'est que ça ne donne pas l'impression d'être en train de documenter, d'être dans des archives, de, je sais pas. Autant le jeu réussit bien, effectivement, son job d'expliquer ses règles, et donc ça amène une forme de fluidité à la compréhension, autant, en fait, sur le sujet vraiment de l'immersion en tant que telle, en fait, ça, pour moi, ça marche pas, tu vois. Je comprends ton argument, en fait, donc, mais pour moi, c'est pas un argument dans le sens de l'immersion. C'est un argument dans le sens de, ok, on aide les joueurs à comprendre le jeu.
Mais tu cherches un jeu narratif, en fait, presque. On est sur un jeu de gestion, hein. C'est ça qu'il faut aussi remettre dans le contexte. On va pas,
on va pas être sur un
septième continent. Ouais, on va explorer pour aller au site, tu vois. On est vraiment,
Dans ce cas-là, me propose pas un thème d'exploration dans un jeu de gestion, en fait. Tu vois? Mais non, mais si, tu rigoles, mais. En fait, juste trouver des thèmes appropriés. Moi, dans Agricola, je suis désolé, mais je sens que je suis en train de vivre une vie difficile, rurale, où j'élève des moutons, et si j'ai plusieurs moutons, j'en ai un autre qui va naître, et voilà, et que la vie, elle est pas facile, et qu'il faut que je trouve de la nourriture pour nourrir ma famille. Enfin, mais je le sens, en fait, vraiment, tu vois, il y a... Je dis pas que j'ai les bottes aux pieds et que je sens la boue sur les chaussures, mais il y a ce sentiment qui se dégage quand même dans le jeu, un sentiment de ressenti immersif de ton esprit qui arrive à te projeter. Tu fais ok, on est sur un jeu qui te montre ce que c'est que la vie rurale et une vie assez difficile. Évidemment que ça va pas me raconter toute la vie d'une famille, mais tu vois. Il arrive à faire transmettre ce sentiment-là. Et Narak, il veut un thème d'exploration, machin, truc. Ok, mais fais-moi vivre l'exploration, alors. Fais-moi vivre l'aventure dans la jungle, fais-moi... En fait, à aucun moment, ça arrive, ça.
Si, ça...
Le seul moment, peut-être...
Ça arrive quand tu découvres des nouveaux sites. Le moment où tu retournes la tuile, tu sais pas ce qui va arriver, tu sens l'exploration, tu sens cette espèce de petite montée de plaisir de qu'est-ce qu'on va avoir sous le ouais. Et pareil quand arrive le gardien après moi ce que je trouve que toute la partie exploration est plutôt bien traduite. En revanche la partie c'est qu'on sait plus jamais comment il faut l'appeler là
la piste de recherche
tu montes en recherche, tu découvres des assistants, tout ça pour aller finir sur un temple, c'est un peu chelou. Le temple pour moi il aurait dû être de l'autre côté dans l'exploration aussi, qu'au final à force d'explorer tu tombes sur le temple. Thématiquement ça me paraissait quand même beaucoup plus cohérent que ce truc de t'étudies puis pouf tu trouves le temple.
Ouais, parce que justement tu étudies des écrits, tu étudies pour chercher justement ce temple, le lieu du temple. Mais
ouais, après, mais ça tu vois ça c'est pareil, c'est un truc de la règle au final, mais c'est pas tu vois, c'est effectivement comme dit Elodie, c'est pas cohérent dans ton esprit en fait, et du coup c'est plutôt un truc qu'on t'a on t'a lobotomisé, Drew. Tu y as cru au fait qu'on allait faire des recherches et que en faisant des recherches pouf on trouvait où était le temple, mais en fait c'est pas ce à quoi on s'attend en fait.
Non mais je sais pas, moi ok on n'est pas immergé, mais je suis pas immergé dans un Agricola, enfin on est sur un jeu de gestion. Alors, parce qu'on serait sur un jeu de gestion, il faudrait pas mettre de thème exotique, il faudrait rester sur des thèmes de tableur Excel. Non, ça me va, le thème de l'exploration, entre guillemets, de la jungle, je trouve qu'il colle très bien, parce que cette thématique a été bien imbriquée à la mécanique, comme je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter, mais non, moi, ça colle. Comme je l'ai dit, j'ai pas l'impression d'être dans la jungle, mais je comprends ces mouvements. D'aller sur un site, explorer le site, il y a un gardien qui apparaît, il me demande des choses pour pas me bouffer quoi, en gros, donc enfin pour pas me faire peur parce qu'on prend des peurs. Donc voilà, après thématiquement, c'est vrai que on aurait peut-être remplacé les pointes de flèche par de la nourriture, ça marchait aussi. On amadoue le gardien par de la bouffe et etc. Donc bon, après
je peux ressentir de la bouffe plutôt que d'essayer de le bourrer dans une jeep ou dans un avion, ça serait quand même plus logique.
Voilà, ce serait. Enfin bref, je comprends ce que tu dis, mais après moi j'ai le même niveau d'immersion que dans tout autre jeu de gestion et ça me convient.
Eh ben, c'est triste. Non, 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 mais, enfin, oui, enfin, je le dis en rigolant, mais en fait, en vrai, je le pense parce que, enfin, moi, je ressens vraiment des choses différentes dans un Agricola, quoi. Vraiment. Je pense que Agricola est bien plus pertinent dans la cohérence entre son thème et effectivement et ouais et ce qui propose comme sentiment de jeu quoi. Et bon j'ai pris cet exemple là, il faudrait que je creuse un peu là pour c'est le premier qui m'est venu quoi, il y en a sûrement d'autres hein, dans les jeux de gestion, il faudrait que j'explore d'ailleurs hein, dans les jeux de gestion si c'est je pense pas que ce soit le seul truc tu vois qui me plaise, voilà Agricola c'est vraiment après il y a des je peux me faire plaisir sur des jeux de gestion pour d'autres raisons, mais là dans Narak en fait il me donne aucune raison en fait de me faire plaisir, donc voilà, c'est un argument comme tous les autres qu'on a dépilé depuis le début quoi.
Mais, bah, un autre point d'immersion, je sais pas si on peut parler d'immersion du coup vu que ce serait pas de l'immersion comme tu l'entends pour moi, mais il y a ces fameuses ressources de pointes de flèches, de tablettes, de joyaux. Je sais que toi t'es pas fan parce que c'est du plastique et c'est vrai que quand on a ouvert le jeu, on s'est dit mais pourquoi ils nous ont foutu tout ça ? Il y a des tokens à côté pour ce qui est pièces et boussoles, ils sont complètement cons. Et au final, je trouve que ça participe vachement à l'immersion. Bon, immersion mode drou, on va dire. Mais
ouais,
parce
non, mais
que
oui, bien sûr.
Typiquement, moi quand je joue au jeu, je suis assez facilement en train de dire bah tiens, je dépense un bleu et trois rouges. Et puis ça me fait trois blancs et un jaune. Et dans Narak, c'est un des rares jeux où je vais jouer des tablettes, je vais jouer des pointes de flèche et je vais jouer des joyaux. Je vais pas jouer des blancs, des bleus et des rouges, quoi. Mais systématiquement, jamais je vais dire je gagne deux bleus, quoi. Tu vois, c'est... et je trouve que...
Ouais, mais je te l'accorde, c'est vrai, mais...
Et je pense qu'on n'a pas fait de raccourci.
Voilà, t'as pris la défense avant même que je parle. C'est-à-dire que, en fait,
Oui, mais parce qu'on en avait déjà
c'est
parlé.
Effectivement pas, ouais. C'est effectivement pas l'immersion que je recherche, en fait. Pour moi, c'est juste du vocabulaire. Ok, tu veux, tu files le même argument. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la règle. Ça permet de mieux comprendre les choses, ce qu'on essaie de t'expliquer que t'es censé faire selon la règle. Voilà. Mais c'est pas parce que je manipule des tablettes en plastique, des pointes de flèches en plastique et des joyaux que ça rend plus concret l'action que je suis en train de faire, qui est de dépenser un joyau et deux pièces d'or pour avancer sur la piste de recherche.
Cette piste de recherche, pour moi, effectivement, elle est un peu hors.
Non, mais même ou pour battre le gardien. Enfin, hein, c'est pareil pour le coup. Hein. C'est ouais.
Pour battre le gardien, ouais. Je pense que on creuse pas assez la thématique des gardiens parce que il y a notamment un gardien qui demande que des pièces. Et je crois qu'en fait c'est le singe voleur ou quelque chose comme ça. En fait, il y a tout un petit historique derrière chaque gardien qui explique pourquoi ils veulent telle ou telle ressource. J'avais vu ça, j'étais tombé dessus, je sais plus comment, mais et tu vois, je pense que c'est pas assez développé pour le coup. Ils auraient peut-être dû les nommer, ces gardiens, ou je sais pas, mais...
Ah non, mais ça n'aurait rien changé. Hein. Ça n'aurait absolument rien changé à mon impression de non-immersion. Ça aurait juste rajouté du fluff, et ça, pour moi, ils l'ont plutôt bien fait. J'ai pas besoin, pour le coup, dans Narak, qu'on m'explique que le revolver... Eh ben, le revolver est une arme qui permet de tuer les gardiens, tu vois. Bah non, en fait, c'est marqué revolver, il y a une image de revolver et l'icône, elle dit, si t'es devant un gardien, tu peux le tuer. Donc, voilà, c'est bon, j'ai compris et j'ai pas besoin qu'on me mette un texte qui va l'expliquer. Mm-hmm. Tout comme j'ai pas besoin, c'est même mieux là, l'exemple que tu donnes, tu vois, du gardien voleur d'or. Bah en fait, tu peux te l'imaginer et tout. Donc ça, très bien, moi, plutôt bon point pour le jeu hein, là-dessus. Hein.
Bah après, si
mais encore une fois, c'est pas de l'immersion.
S'ils sont tirés d'un bestiaire particulier, ça pourrait justement être intéressant d'avoir un appendice pour savoir d'où ils les ont tirés et quelles ont été leurs...
bien sûr, ça n'enlèverait rien au jeu. Hein,
non, au contraire, ça ajouterait un peu de culture à savoir d'où sont venues leurs idées, ça pourrait être super intéressant.
Oui, si ça vient de plusieurs de mythologies variées, c'est peut-être inspiré de certaines choses, de certaines civilisations. Hein.
Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter par rapport à la thématique, par rapport à la thématique, à l'immersion matérielle? Ou est-ce qu'on a fait le tour?
Non, c'est bon pour moi.
Ouais, pareil.
D'accord. Eh bien, nous allons passer à la conclusion. Donc, je vous demande un petit mot de la fin chacun. Est-ce que, par hasard, votre avis aurait changé un petit peu pendant ce débat? Est-ce que vous accordez certains points à votre adversaire? Ou est-ce que pas du tout, votre avis n'a absolument pas changé? Et dernière question, est-ce que vous allez voir le jeu un petit peu différemment la prochaine fois que vous y jouerez, si tant est que vous y rejouerez?
Ah, c'est pour moi ça.
Eh bien, comme Cyrus avait commencé, je te propose Drew d'attaquer.
Donc mon avis n'a pas changé sur ce jeu au cours du débat. C'est pas le jeu parfait, c'est clair. Hein, il peut y avoir de l'analyse parlée ici autour de la table. Et cette piste de recherche, je la trouve parfois un petit peu sortie du chapeau, on va dire, un peu facile. Mais je trouve que l'ensemble donne un tout assez cohérent, qui m'est très plaisant à moi, qui me permet d'aborder le deck building avec un instrument supplémentaire, là où le deck building, comme je l'ai dit, je suis pas le plus fervent de ce type de mécanique. Et pour moi, je ressens une sorte, pas d'immersion, mais on me raconte un peu une histoire que j'apprécie. J'aime bien qu'on mette un thème sur un jeu de gestion et qu'on soit pas dans des tableurs Excel à dire un bleu donne deux rouges, tiens, je paye trois jaunes pour pouvoir faire ça. Voilà, j'aime bien qu'il y ait quand même un petit fluff autour et cet environnement Indiana Jones, à la poursuite du diamant vert, tout ça, ça remonte un peu à mon enfance et je pense que ça fait aussi, c'est ça aussi qui fait un petit peu tilt dans ma tête et pour ça que je l'apprécie.
Ok, Cyrus.
On va pas se mentir, hein, ces émissions-là, elles sont pas faites pour qu'on change d'avis, hein, et elles sont pas faites non plus pour que nos auditeurs et nos auditrices changent d'avis. Hein, j'ai pas la prétention d'avoir convaincu des gens que Narak, c'est un jeu pas ouf. Mais ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on mette le doigt sur pourquoi on aime un jeu et pourquoi on l'aime pas. Et je pense qu'on a bien vu qu'il y avait il y avait des perceptions très différentes chez Drew et chez moi sur Narak, même si on s'entend sur quelques points. Là, Drew en a cité, moi j'ai cité typiquement effectivement le fait que les règles sont bien faites, elles sont bien amenées, voilà, elles sont appuyées par un thème qui, même s'il m'immerge pas, bah il réussit à faire en sorte que un jeu complexe le soit pas tant que ça. Donc ok, c'est un bon point, marketing en fait, j'ai envie de dire, hein, parce que bon, c'est moi ça m'apporte pas du plaisir, mais voilà, ça, moi ça fait rentrer des gens dans le jeu. Je suis content d'avoir discuté, toi, de Narak. Je suis content aussi parce que nos discussions elles permettent même toi, peut-être pour toi, je sais pas toi Drew, de ton côté, mais moi j'ai mis le doigt aussi sur des choses aussi qui me dérangeaient un peu dans le jeu, typiquement le côté tu sais, on te dissémine des friandises pour te dire ça va là, il faut que t'ailles par là plutôt, c'est pas mal, tu vas voir. Ça c'est un truc que je kiffe pas, et du coup là j'ai mis le doigt dessus ce soir en discutant avec vous, donc je trouve ça plutôt cool. Voilà, non, je suis pas sûr que je replongerai dans Narak après ces discussions pour autant. Je vais pas redire mes arguments. Je pense que les gens, ils ont bien compris, hein, ce côté arbre, voilà, qui me pose,
oui,
vraiment
attention,
un gros problème.
Parce que là, tu t'approches très proche du sifflet. Hein.
Non, mais c'est une synthèse, madame. Il faut bien.
C'est un mot de la fin.
Forcément. Ouais. Un petit mot de la fin. Bah voilà. Non, mais écoute, voilà. Je suis content d'avoir fait cette émission avec vous. Voilà. Et qu'on ait dit des choses gentilles et des choses pas gentilles sur Narak. C'est bien. Voilà.
Ok. Alors là, moi c'est plutôt un jeu que j'aime bien. Je vais aussi faire ma petite synthèse. Bon, vous l'aviez deviné, hein. Toute manière, je joue pas cette fois un
pas
jeu.
Les masques.
Mais je pense que j'ai quand même pas été trop partial sur.
Non.
Parce qu'en effet, d'avoir fait cette émission, ça m'a aussi permis de mettre le doigt sur des trucs qui me plaisent un peu moins au final. Et sur d'autres que j'aime. Moi, j'ai cette idée du casse-tête, finalement, parce que le thème me porte, me plaît. Et il me plairait peut-être pas, ce casse-tête-là me plairait sûrement pas sur d'autres types de jeux. Et sur le fait aussi que ça soit quand même du casse-tête à moyen terme. On est, je sais pas, toute la partie qu'il faut anticiper, c'est l'idée d'une manche. Et je trouve que le thème est plutôt bien amené sur certains points, sauf sur cette partie d'arbre de la connaissance, enfin de chemin de connaissance, de truc de la connaissance ou de sagesse.
Piste de recherche.
Piste de recherche, voilà, bah tu vois, je trouve ça tellement, comme tu disais, tiré du chapeau que j'arrive même pas à me souvenir du terme. Donc c'est bien que c'est un truc qui me bloque. Et par contre, moi, je kiffe vraiment la partie découverte du plateau, quoi, et exploration. Ça, c'est vraiment ce que j'aime dans le jeu, quoi. Donc voilà, moi, je trouve que c'est quand même un jeu que j'ai vraiment du plaisir à le ressortir. Je dois faire une ou deux parties par an, quoi. Et ça, je trouve que ça me permet de pas se lasser non plus et de pas tomber sur des espèces d'automatismes. Et j'étais aussi très très contente de cette première pour moi du pour et le contre. D'avoir fait l'arbitre.
Et pour moi aussi, c'était une première.
Ok.
Félicitations à vous deux, du coup, pour cette
voilà,
première.
On s'est lancé.
Je vous ai trouvé très bien dans votre rôle.
Et ben, je vous propose de terminer. Est-ce que. Hein, on clôture là cette émission ?
Yes. Mm-hmm.
Eh bien, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy avec un i-jeu. Avec un x.fr. Vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Blue Sky ou encore Mastodon. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux et surtout parler de nous autour de vous. Rejoignez également notre Discord et devenez donatrice ou donateur. La semaine prochaine, vous retrouverez les chroniques pour clore cette année 2024. Et puis le mois prochain, vous retrouverez un Sortons le grand jeu. On se retrouve dans 2 mois pour un nouvel épisode de Le Pour et le Contre. Et en attendant,
jouez bien.